Alors, ce que je vais vous donner, c'est un résumé succinct, en fin de compte, de la rencontre de Chantilly. La rencontre de Chantilly est essentiellement de deux interventions. Celle d'un théologien luthérien qui s'appelle André Birmelet, et celle d'un professeur d'histoire de l'université de Caen, spécialiste de l'histoire contemporaine, qui s'appelle Étienne Fouillou. Donc c'est la synthèse de ces deux études que je vais vous donner ce soir, parce que je pense que c'était des études assez remarquables et qui méritent d'être retenues et qui méritent d'être méditées, parce que justement elles nous permettent de faire le point de l'œcuménisme aujourd'hui qui, comme on le précisait il y a un instant, marque le pas d'une manière très très nette. Alors, Étienne Fouillou a commencé son intervention en précisant qu'on est aujourd'hui à une époque où, des deux côtés, il y a une affirmation d'identité. Ça marche mon truc, hein ? Et l'accent est mis maintenant sur les différences ecclésiales et non plus sur les points communs. Donc, il y a une accentuation des divergences et non plus des convergences, comme c'était le cas dans le passé. Et c'était ce qui apparaissait très très nettement par rapport aux rencontres de Chantilly ultérieures, puisque nous sommes rendus compte que nous avons participé à ces rencontres de Chantilly depuis le début, c'est-à-dire depuis 1974, et il est certain que l'atmosphère était très très différente à ce moment-là. Et le présentateur, n'est-ce pas, côté catholique, était l'abbé Giraud, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il était venu faire une conférence sur Luther dans le séminaire il y a 3 ans, je crois, pour l'anniversaire de la naissance de Luther, était obligé de prendre acte de cet accent qui est mis maintenant sur les divergences, en disant qu'il fallait néanmoins passer au-dessus de ces divergences pour aboutir à une conversion des églises. Alors ça, cette expression nous a écorché les oreilles, parce que c'est une expression qui n'est pas biblique. La conversion, c'est toujours la conversion de l'individu. La conversion du cœur. Mais nulle part dans la Bible, nous ne trouvons qu'il soit question de conversion des églises. Est-ce que, justement, l'insistance sur la conversion des églises n'est pas une manière d'escamoter le problème, en fin de compte, qui est le problème essentiel de l'œcuménisme, à notre point de vue, cette fois-ci, c'est-à-dire justement la conversion des cœurs. Il est bien évident que s'il y avait dans toutes les églises une conversion à Jésus-Christ des individus qui les composent, s'il y avait une annonce très nette de cette conversion qui était donnée, alors il est certain que, très vite, bien des divergences qui subsistent encore disparaîtraient. Seulement, que ce soit du côté catholique ou que ce soit du côté protestant, le grand point doctrinal qui est absent, c'est justement la conversion. Nulle part, il n'est fait référence à la conversion des cœurs, mais on a trouvé ce rattrapage extraordinaire qui est manifestement et d'inspiration satanique de conversion des églises. Conversion des églises à quoi ? Eh bien, un autre mode d'être, pas quelque chose de très très vague, et ça permet, c'est le fourre-tout idéal dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut.
C'est Giraud.
Giraud qui disait ça. Giraud. Oui. Alors, donc, le professeur Fouillou lui partait du constat de ces divergences. Et le thème d'ailleurs de la rencontre était nos divergences ecclésiales et leur enjeu dans l'œcuménisme. Le professeur Fouillou remarquait que ce thème était en soi fort peu œcuménique. Parler des différences, quand on fait de l'œcuménisme, c'est sûr, bon, il faut le faire, mais. C'est symptomatique d'un certain état d'esprit, car dans le passé récent, on parlait plutôt de convergence que de divergence. Or, justement, ces divergences, lui voulait les traités en tant qu'historien et sociologue, montrer comment l'appartenance confessionnelle a une influence sur le comportement des individus dans la vie courante. Et deuxièmement, il s'agissait de donner une explication. Alors, il partait d'une étude qui a été faite par un de ses collègues sur un petit village d'Alsace-Lorraine qui était divisé à peu près moitié-moitié, comme c'est le cas encore dans cette région, entre catholiques et protestants. Et là, il y avait coexistence de deux groupes confessionnels, mais deux groupes qui vivaient ensemble, mais ne cohabitaient pas d'une certaine manière, qui représentaient deux groupes ethniques pratiquement différents. Il y avait, depuis la fin du XVIIIe siècle, un prosélytisme réciproque, mais qui avait peu d'impact, en sorte que on pouvait parler, disait-il, d'une guerre d'usure, mais le front restait stable. Voilà. En fait, chacun des deux groupes vivait dans une culture différente et dans une confrontation permanente. Alors, du côté protestant, le réflexe qui jouait très très fort, c'était constamment la crainte de l'hégémonie du cléricalisme catholique. Et cela dans tous les domaines de la vie quotidienne, en quelque sorte. Chaque fois que, à tort ou à raison, on sentait une mainmise du clergé catholique dans tel et tel aspect de la vie de la commune, par exemple, alors il y avait immédiatement une réaction protestante. Côté protestant également, il y avait encore, à cette époque, les restes de ce que l'on a appelé l'austérité protestante, un très grand sérieux à tous les niveaux de la vie, un souci d'honnêteté, et sérieux aussi dans le travail, en sorte que l'on pouvait parler d'une véritable religion du travail du côté protestant, qui avait des résultats sur le plan de l'enrichissement. Par exemple, les fermes protestantes étaient beaucoup plus prospères que les fermes catholiques, fonctionnaient avec des machines, des principes beaucoup plus modernes que les fermes catholiques, avec une main-d'œuvre moins abondante également. Et les jeunes protestants étaient en général, avait le souci d'une ascension sociale liée à aussi un autre culte, celui de l'instruction, favorisant un exode rural par le haut, c'est-à-dire les élites partaient de la campagne pour aller dans la ville, justement parce que l'instruction faisait qu'ils accédaient à des postes autres que cela. Par contre, du côté catholique, ce que l'on notait, c'était le respect de ce que l'on appelait l'ordre naturel, le droit naturel. Les choses sont ce qu'elles sont par la volonté de Dieu et on hésite donc à modifier cet ordre naturel. Ce qui fait justement qu'on avait, côté catholique, beaucoup plus de difficultés à adopter, par exemple, les techniques modernes sur le plan d'exploitation agricole, par exemple. Parce qu'il ne fallait pas bouleverser l'ordre naturel voulu par Dieu. Et à une époque beaucoup plus proche, à partir des années 50, le rejet de la contraception, par exemple, repose exactement sur le même principe du respect de l'ordre naturel des choses. Deuxième aspect de la population catholique, c'était le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité qui faisait que le petit peuple se gardait de prendre des initiatives, il ne le faisait que s'il était conduit par ses élites et notamment par les prêtres. C'était par exemple les prêtres qui avaient pris l'initiative de créer des syndicats agricoles, c'était les prêtres qui avaient pris l'initiative de créer des associations familiales catholiques, etc. et non pas justement les gens eux-mêmes. Troisième caractéristique de la population catholique, c'était le respect de la tradition, avec un grand T, et des traditions, avec un petit T. Dans une continuité avec le passé, un respect de ce qui avait été le produit du passé, qui se traduisait par la prédominance de la communauté sur la personne, sur l'individu, un sens de la continuité. Par contre, du côté protestant, on assistait dans ce domaine à une intériorisation du libre examen. Et l'individu était premier par rapport à la communauté, lequel individu, dans sa vie, dans la manière de conduire sa vie, avait davantage tendance à ne compter que sur lui-même. Donc, on retrouve là le vieil individualisme protestant. Deuxième aspect, la relativisation de la tradition, qui faisait que le protestant était plus ouvert aux adaptations éventuelles requises par le monde moderne. Et ceci d'autant que le culte de l'instruction, la religion du livre, faisait que le protestant était aussi beaucoup plus ouvert à la culture. Et puis, enfin, jouer, parce que, en fait, on est quand même en France, le réflexe de minorité. Alors, c'est très intéressant cette étude, parce qu'on retrouve effectivement les grands traits que nous avons évoqués dans notre étude sociologique du protestantisme, si vous vous en souvenez. Et même si il faut relativiser cette étude d'abord parce qu'on a affaire à un cadre géographique très très limité, une région tout de même qui est particulière en France, l'Alsace-Lorraine, avec l'influence de l'Allemagne d'une part, et d'autre part, région où le protestantisme est minoritaire, certes, mais quand même constitue une très très forte minorité, beaucoup plus forte que dans les autres régions de France. Deuxièmement, relativisation parce que ici nous sommes au 19e siècle et au début du 20e siècle et que quand même depuis quelques dizaines d'années aussi les choses ont pas mal évolué à ce niveau-là, comme on fait remarquer un certain nombre de prêtres et de pasteurs qui étaient originaires de cette région. Mais dans l'ensemble, je crois que l'analyse restera là. Alors, le professeur Fnous s'est ensuite attaché à analyser ce qu'il a appelé du côté protestant le complexe minoritaire et du côté catholique le complexe majoritaire. Et même si l'analyse qu'il avait faite précédemment pour le petit village d'Alsace-Lorraine peut être un petit peu relativisée dans certains domaines, sur le plan du complexe majoritaire et du complexe minoritaire, alors là je crois que c'est absolument indiscutable. Premièrement, côté catholique, le complexe majoritaire. Et c'est un catholique qui dit ça, ce qui était d'autant plus remarquable d'ailleurs. D'abord, c'est que le catholicisme est en France omniprésent. Omniprésent dans la société, omniprésent dans les médias, omniprésent dans la vie quotidienne des hommes et des femmes qui pensent en termes catholiques. Ce qui fait que le catholicisme a une tranquille hégémonie, disait le professeur Fouillet. Une tranquille hégémonie, parce que justement, elle est la confession omniprésente. Et cela se manifeste, par exemple, dans le langage courant. Ce n'est pas très catholique. La France, fille aînée de l'Église, on entend constamment de cela à la radio, dans les journaux, etc. Et puis cette expression, l'Église. L'Église a dit ceci, l'Église a dit cela. Alors on ne précise pas de quelle Église il s'agit, parce que c'est évident pour tout le monde que quand on dit l'Église, c'est l'Église catholique, étant bien entendu que la seule Église qui existe, c'est l'Église catholique. Et le professeur Fnous faisait remarquer, par exemple, chez nos voisins d'outre-Manche, en Angleterre, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'entendra jamais. Même si l'Église anglicane est l'Église officielle de l'État britannique, jamais les journalistes, par exemple, ne se référeront à l'Église anglicane comme à l'Église. Et ils diront, les églises, eh bien, ont déclaré telle et telle chose. Mais il ne sera jamais de l'église. Ou alors on dira l'église anglicane, l'église d'Angleterre. Par contre, en France, ça va de soi que quand on parle de l'église, eh bien, c'est de l'église catholique à laquelle on fait allusion. Il y a donc une tranquille méconnaissance des minorités qui s'accompagne d'une déformation. Et ça, Marc, je me souviens que dans notre rencontre de la Fédération protestante de samedi dernier, les membres du comité ont noté cette tranquille méconnaissance du protestantisme, même chez des préfets. Donc des gens qui, en principe, devraient être au courant des choses, eh bien, il y en avait un qui ignorait presque totalement ce qu'était le protestantisme. Un préfet. Alors c'est dire si le mal est profond à ce niveau-là. Et cette méconnaissance s'accompagne d'un certain nombre de déformations, de clichés, qui peut aller, par exemple, jusqu'à des affirmations tout à fait aberrantes, du type de celle-ci, les protestants ne sont pas baptisés. Ou bien, les protestants se marient, comme si les catholiques ne se mariaient pas. Il faut comprendre par là que les pasteurs protestants se marient. Voilà, en gros, ce que le public français retient, connaît du monde protestant. Et puis alors, évidemment, l'expression qu'on retrouve constante depuis un certain nombre d'années avec cette chasse aux sorcières contre les sectes protestantes. Enfin, il y a une accusation de cosmopolitisme. Les protestants formeraient un État dans l'État et ne seraient pas des Français à part entière, tout à fait. En tout cas, ce sont des citoyens dont on ne peut pas être absolument sûr parce qu'ils ont des liens avec l'étranger. C'était un petit peu moins aujourd'hui, c'était beaucoup plus vrai au siècle dernier, bien sûr, au moment où il y avait les problèmes entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne étant une puissance protestante et la France une puissance catholique. Mais occasionnellement, ce sont tout de même des choses qui peuvent ressurgir, dernièrement d'ailleurs. Dernièrement, ça fait déjà quelques années, 5-6 ans peut-être, un ouvrage de bas étage avait été publié sur ce thème. Ça, il était intitulé « Nous serons tous des protestants ». Alors, deuxièmement, du côté catholique, protestant, le complexe minoritaire. Face à ce complexe majoritaire de la partie catholique, il y a le complexe minoritaire du côté protestant. En fait, le protestantisme français se trouve devant le dilemme que nous avons déjà souvent évoqué quand on parle de ce thème, ça. Comment s'adapter dans une société catholique sans perdre sa spécificité? Alors, c'est évidemment le problème que soulignait le doyen Carbonnier, c'est le problème que soulevait Jacques Ellul, en fin de compte, quand nous avons l'occasion d'interviewer, c'est le problème sur lequel nous avons longuement réfléchi, non pas tant sur l'angle socioculturel, qui est celui sur lequel se place ici le professeur Clou, mais nous, sur l'angle spirituel. Alors, pour ce faire, le protestantisme français a besoin justement de ses relations avec l'étranger. Et prenons par exemple un groupe comme les baptistes, eh bien, il est certain que si les baptistes n'avaient pas le soutien financier des baptistes américains, eh bien, ils ne pourraient pas vivre et se développer. En France, en Bretagne, par exemple, au siècle dernier, le protestantisme était uniquement soutenu depuis l'étranger, essentiellement depuis l'Angleterre. Il aurait suffi que l'Angleterre coupe les vivres et immédiatement, le protestantisme breton était déraciné. C'est pourquoi, d'ailleurs, les œuvres qui sont les nôtres, missionnaire de Café d'abord, et puis nous-mêmes ensuite, n'est-ce pas, avons justement pris l'option inverse à cause de cela, d'une implantation locale qui ne dépend absolument pas de l'extérieur, qui ne dépend absolument pas de l'étranger, ni même encore une fois de l'extérieur. Et ça, c'est tout à fait nouveau, non, dans le contexte du protestantisme breton, entre autres. Donc, des liens avec l'étranger qui créent cette suspicion que nous évoquions tout à l'heure. Deuxièmement, la cohésion géographique. Il y a des grandes régions où le protestantisme forme une minorité relativement forte. Bon, nous évoquions tout à l'heure l'Alsace-Lorraine. Évidemment, la région des Cévennes, du Languedoc, à cause de toute l'histoire qui s'y rattache, le Poitou, et un degré moindre la Normandie. Bien sûr, la région parisienne, pour des raisons autres. Donc, une concentration géographique, une cohésion géographique, qui gravite autour d'un certain nombre de sanctuaires protestants qui ont une valeur symbolique. Le refuge des Cévennes, par exemple, avec le fameux mas Soubéran, ou le fameux chef Camisard, Roland, n'est-ce pas ? C'est Roland, avait sa résidence, et qui est devenu maintenant le musée du désert, où les protestants, non seulement de France, mais également de descendants des Huguenots qui ont fui, au moins la révocation du Nord, se retrouvent une fois par an, le premier dimanche de septembre, pour célébrer, en quelque sorte, le souvenir. Donc on a là une identification à un passé qui permet justement d'affirmer son identité. Et dans ce domaine, la diaspora est vécu comme un risque. Troisième point, la cohésion familiale. Les grandes familles protestantes, les tribus protestantes, les Monod, les Keller, etc., qui pratiquent une sorte d'endogamie aussi, qui en même temps est aussi un réflexe de défense. Et puis la cohésion culturelle. Par exemple, le fait de donner aux enfants des prénoms bibliques, c'est une manière aussi d'affirmer une identité à la fois spirituelle et culturelle, etc. Alors, ce sont là évidemment des réalités qui ont tendance à s'estomper aujourd'hui parce que les grands refuges, les grandes concentrations géographiques, eh bien, sont un petit peu bouleversées. Comme l'écrivait Ex Braga, les Cévennes crèvent à cause de la crise économique, à cause du chômage, à cause de toutes ces choses-là. Et les jeunes quittent le pays, même si ensuite ils y reviennent quand ils sont installés, par exemple, ils acquièrent des résidences secondaires et puis ensuite ils viennent en retraite. Mais il est certain que c'est pas ça qui fait l'avenir du protestantisme dans ces régions-là. La cohésion historique par justement les grands symboles eh bien, a tendance à s'estomper, même si justement à l'occasion de grands anniversaires comme celui que nous avons célébré l'an dernier, eh bien, tout cela est un petit peu remis en branle. Mais la cohésion culturelle aussi disparaît, et c'est tout ce que nous avons évoqué quand nous avons justement vu ce problème de l'identité du protestantisme dans la société française. Il y a un risque certain justement d'assimilation. Alors, face à ce complexe de minorité, la minorité a deux solutions. Ou bien se faire oublier en tant que minorité. Et c'est certain qu'une grande partie du protestantisme français adopte aujourd'hui cette solution. Et nombreux sont les protestants qui ne s'affichent plus comme protestants. Et il faut parfois des années et des années pour que, soudain, on découvre que telle personne est protestante. Ou bien alors, l'autre solution, c'est de se distinguer, de s'affirmer tel, et en même temps, de se distinguer par tous les moyens dans la société française. Et ça, c'est plus le réflexe des juifs. La minorité juive, avec laquelle la minorité protestante a de nombreux points communs en France, elle est plutôt poussée justement à se distinguer. Par exemple, le professeur Foulou vous racontait qu'un petit incident, quand il était donc à l'université, il avait un camarade juif, et ce dernier, alors, il dit on fait connaissance, etc. Il dit bah oui, moi j'étais toujours le premier. j'étais en classe, partout, dans toutes les classes où je suis passé, j'étais le premier. C'est normal puisque j'étais juif. Enfin, ce sentiment de. Ben, il faut se distinguer. Parce qu'on est minoritaire, il faut qu'on se distingue. C'est une manière justement d'affirmer son identité. Et il s'agit d'être parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Alors, c'est ce réflexe minoritaire part justement aussi d'une conviction profonde de la vérité qui est en soi. C'est parce que l'on est profondément convaincu qu'on est porteur justement d'une vérité et qu'on est profondément convaincu de cette vérité, bien qu'il faut s'affirmer comme porteur de cette vérité. Cela peut aller, disait le professeur Toulouse, parfois jusqu'à un certain mépris de la, du groupe majoritaire, considéré comme idolâtre, la monarchie pontificale, etc., donc qui conduit à un certain sentiment de sa valeur. Et lorsque j'avais étudié justement ce même problème en milieu juif avec les professeurs de l'université hébraïque, ces derniers ont souligné le même phénomène. Que par exemple au XIIe siècle, au moment où le peuple juif était méprisé d'une manière qu'il n'a jamais été en Europe, considéré comme des suppôts de Satan, etc., comme les derniers des derniers, et bien la réaction, justement, ça a été de montrer, bien non, nous ne sommes pas les derniers des derniers, au contraire, nous pouvons être les meilleurs. Et ça a été le début de cette extraordinaire floraison littéraire et artistique qui a marqué le judaïsme européen au XIIe siècle, avec un tout petit nombre de juifs, parce qu'il n'en restait plus que quelques milliers dans toute l'Europe, eh bien, ils ont réussi à produire sur le plan littéraire des œuvres de génie, des chefs-d'œuvre, qui, pour une toute petite communauté, comme ils étaient sans commune mesure avec le monde, et avec l'importance, avec les moyens qui étaient là. Alors, c'est très intéressant, parce que aujourd'hui, le protestantisme est tiraillé entre les deux solutions, entre le fait de se laisser oublier, ou au contraire, le fait de s'affirmer. Or, il est évident que se faire oublier, c'est à peine se faire assimiler. La seule solution, c'est au contraire de s'affirmer. Et n'importe comment, on est certain que l'Évangile nous amène à rechercher ce qui est le meilleur. Tout ce que vous faites, disait Jésus, faites-le comme pour le Seigneur, donc le mieux possible. Alors il est évident qu'il y a là des dangers. Encore une fois, d'avoir une attitude de mépris vis-à-vis des autres, donc de s'enorgueillir. Le danger également de confondre réussite humaine avec réussite spirituelle, briller dans le domaine humain et non pas dans le domaine spirituel, mais il est certain qu'il y a là quelque chose de très important qui ne peut pas être négligé non plus. Deuxièmement, ensuite, il y a des raisons culturelles. La recherche de l'excellence fait que les minorités qui s'affirment, produisent des élites qui prennent la tête des affaires, y compris dans le pays. Et le professeur Fouillou notait le fait que, par exemple, dans le gouvernement des Sénats, on avait une forte proportion de catholiques convaincus. Alors, ceci dit, à bon entendeur, salut. Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut noter. Il faut noter très, très soigneusement. Alors, aujourd'hui, le protestantisme a la possibilité, disait le professeur Fouillou, d'être une minorité sans complexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en son temps, le protestantisme a été une minorité complexée aussi longtemps qu'elle a pensé pouvoir gagner la majorité. En effet, jusqu'au XIXe siècle, le protestantisme pensait, et les élites protestantes pensaient que la foi protestante n'avait pas pu s'établir en France, se propager en France à cause de la persécution. Et qu'il suffirait que la persécution disparaisse, que les conditions défavorables disparaissent pour qu'en fin de compte, la majorité du pays se tourne vers le protestantisme. Aujourd'hui, tout le monde a abandonné cette pensée-là, on s'est rendu compte que tel n'était pas le cas. Ce qui fait que, eh bien, dégager de son de ce souci. Le protestantisme aurait, selon le professeur Coulou, la possibilité d'être une majorité sans complexe. Alors là, je pense que ça peut se contester, dans la mesure où il y a d'autres complexes qui naissent à ce niveau-là. C'est justement celui de devoir lutter pour sa subsistance, pour sa permanence et pour sa survie, tout simplement. Alors, dans un troisième point, le professeur Coulou analysait le poids du passé. Et là, il faisait une distinction qui me semble très, très intéressante entre la mémoire et l'histoire. Quelle mémoire les deux groupes confessionnels qui se partagent notre pays ont-ils de leur histoire commune? Or, il est intéressant de voir que cette même histoire est perçue très différemment selon le côté où l'on se situe. Il y a donc une mémoire différente des mêmes événements. Une mémoire, justement, qui ne correspond pas toujours avec l'histoire. C'est ainsi, par exemple, qu'il est tout à fait remarquable que le catholicisme a une beaucoup moins bonne mémoire de l'histoire commune du protestantisme et du catholicisme en France que le protestantisme. Et ceci s'explique parce que le catholicisme n'est pas obsédé par les persécutions et par les guerres de religion. Il n'est pas obsédé par la question de la révocation de l'édit de Nantes. Mais quelle est la mémoire qu'il garde de son histoire en France? Ce sont les états de la laïcisation qui ont commencé avec la Révolution française et qui se sont poursuivis tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Voilà ce qui fait l'essentiel de la mémoire historique du catholicisme en France. Les étapes de la laïcisation, les martyrs de la Révolution, la terreur, la guillotine, tout ce qu'on voudra. Par contre, du côté protestant, bien sûr, ces étapes de la laïcisation ne sont pas un objet essentiel, justement, de la mémoire historique. Par contre, ce qui en est l'objet, c'est la révocation des dominants, c'est la guerre des Camisards. Voilà justement ce qui fait partie de la mémoire protestante dans ce domaine. Le catholicisme, par rapport à ces mêmes événements, a mauvaise conscience. Et face à cette mauvaise conscience de son passé, eh bien, il a trois attitudes. La première, c'est d'oublier. La deuxième, c'est de déculpabiliser. Et la troisième, c'est de réhabiliter. Oublier, eh bien, je crois qu'on peut en prendre un exemple très simple. Un sondage dernièrement auprès d'un certain nombre de Françaises moyennes, demandait dans l'histoire quelle était la femme qui a joué le plus d'importance dans l'histoire de la France. Quelle est la femme qui a marqué de son empreinte d'une manière positive l'histoire de la France. Et je vous le donne en mille, la majorité des Françaises disait Catherine de Médicis. La Saint-Barthélemy, je ne connais pas. Donc, première chose, oublier. Deuxième attitude, déculpabiliser, et nous en avons un exemple magnifique lors de la dernière réunion œcuménique ici à Vannes, où il était question justement de la guerre des Camisards, et un médecin catholique, docteur Courcelas, a essayé de justifier l'attitude de Louis XIV dans la répression de la révolte de Camisards, disons que ce pauvre Louis XIV se sentait menacé sur son trône, n'est-ce pas, par ses madames, ses gueux qui osaient se révolter contre son autorité. Et puis, donc, justifier, réhabiliter. Alors, c'est l'attitude qui consiste à dire, eh bien oui, c'est vrai, nous avons, c'est vrai, quelques torts, mais vous aussi, de votre côté, vous n'avez pas été tendre, les Camisards ont tué, massacré, pillé, etc. Bon, en oubliant qu'il y avait une disproportion importante entre les deux choses, savoir que les Camisards luttaient pour leur vie, pour leur survie, ils étaient agressés, ils se défendaient. On peut discuter, bien sûr, du bien fondé de la révolte des Camisards, mais il est certain qu'il y a une différence entre des gens qui prennent les armes pour défendre leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leur vie, leur foi, et puis ceux qui prennent les armes pour persécuter les autres. C'est quand même pas comparable. Et d'autre part, que si, ça sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif, les actes de violence ont été commis par des catholiques à l'encontre de protestants, eh bien, même en proportion de la minorité protestante, sont infiniment plus nombreux que les actes de violence qui ont été commis par des protestants vis-à-vis de catholiques. Donc, justifier et réhabiliter. Par contre, du côté protestant, on a une forte mémoire de son histoire. Et ceci parce que c'est encore une fois un réflexe de minorité. Par exemple, les catholiques, les historiens catholiques, et le professeur Fouillou le notait à son université, ont été absolument surpris de l'ampleur qu'a pris la révocation de l'édit de Nantes, l'anniversaire de la révocation de l'édit de Nantes l'an dernier, sur le plan national tout entier. Et c'est ainsi que plusieurs de ses collègues, quand on disait des nouveaux articles sur la révocation de l'édit de Nantes, encore la révocation de l'édit de Nantes, mais on en a par-dessus la tête cette histoire de révocation de l'édit de Nantes, avec tout ce qui en est écrit tourné autour, la mémoire de la persécution, la résistance, les guerres des camisards, etc., etc. Alors, du côté protestant, par contre, on a une mémoire très différente des événements qui sont perçus très fort par la mémoire catholique. Qu'est-ce qui est perçu par la mémoire catholique, nous disons il y a un instant, c'est la Révolution, avec la lutte anti-religieuse qui avait été menée par les Jacobins, puis ensuite les étapes de la laïcisation. Or, du côté protestant, ces mêmes réalités sont perçues de manière positive. La Révolution, parce que justement, la Révolution a accordé l'égalité des droits aux protestants, parce que ces derniers ont enfin eu la liberté de culte. Or, justement, dans ce domaine, il y a là un exemple typique de ce décalage entre la mémoire et l'histoire. Un, parce que les protestants ont eu autant à souffrir de la campagne antireligieuse des jacobins que les catholiques, dans la mesure où les jacobins étaient hostiles à toute forme de religion chrétienne, ils n'ont fait aucun détail entre catholiques et protestants, et la répression a frappé les uns comme les autres. Deuxièmement, parce que la liberté religieuse n'a pas été accordée par la Convention, comme on le croit généralement, mais par un édit de Louis XVI, quelques temps avant sa mort, quelques années avant la Révolution française. Déjà, il y avait un édit de tolérance qui accordait la liberté de culte aux protestants. Seulement, la mémoire protestante n'a pas gardé le souvenir de cela. Pourquoi ? Parce que dans la mémoire protestante, Louis XVI est l'héritier justement de Louis XIV, donc du persécuteur, de celui qui avait révoqué l'édit de Nantes, et on ne lui rend pas la justice à laquelle il aurait droit, historiquement parlant, d'être celui qui, en fin de compte, a permis aux protestants de célébrer leur culte d'une manière libre. Bien entendu, la Troisième République, qui est perçue comme anticléricale et anticatholique par la mémoire catholique, est perçue au contraire, précisément à cause de ce même anticléricalisme, comme quelque chose de positif par le protestantisme, dans la mesure où le réflexe protestant, c'est toujours justement de se défier de toute tentative d'hégémonie du catholicisme dans les affaires de l'État. Par conséquent, la laïcisation allait dans le sens souhaité par le protestantisme, c'est-à-dire l'élimination de l'influence catholique des rouages de l'État. Alors, pour cette même raison, le protestantisme aussi reste extrêmement suspicieux vis-à-vis de tout ce qui pourrait mettre en péril la liberté religieuse. Et lorsque des menaces réelles ou non surgissent, eh bien, il y a toujours une réaction protestante. Par exemple, au moment de la Restauration, après la Révolution française, lors de la Terreur blanche, lorsqu'il y a une discrimination qui apparaît, il y en a eu par exemple sous le Troisième Empire, au début de l'Empire, il y avait par exemple Napoléon III avait mis des restrictions très fortes sur l'évangélisation. il a eu des réactions très fortes des protestants qui ont pris fait et cause contre les, avec les adversaires de l'Empire à cause de ces entraves mises par Napoléon III à l'évangélisation. Et puis alors, évidemment, le XIXe siècle et la Troisième République a été la grande période de l'antiprotestantisme dans la mesure où ce dernier était assimilé avec les forces anticléricales, avec raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y avait alliance objective entre les deux courants. Et au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple, eh bien, juifs et protestants étaient voués aux gémonies par la droite catholique en France. Et cela a conduit le protestantisme français à appuyer constamment les forces qui étaient anticléricales et anticatholiques. Le vote protestant à ce niveau-là est typique. Par exemple, du temps au XIXe siècle, la deuxième partie du XIXe siècle, au début du XXe siècle, le vote protestant était un vote qui se situait à gauche, à l'extrême gauche de l'époque, c'est-à-dire du côté radical. Même par exemple des gens comme le pasteur Jones et Jenkins, mais pas qui étaient ici en Bretagne, qui étaient des gens qui par ailleurs étaient des Gallois, militaient en leur temps, n'est-ce pas, pour le parti radical au moment des élections et exhortaient leurs paroissiens, et pas seulement leurs paroissiens, les populations, à s'affranchir de l'obscurantisme romain en votant radical. Une sérieuse manière d'ailleurs de confondre l'évangélisation avec la politique, enfin c'était comme ça. Même chose pour le pasteur de Coat, qui se trouvait à Trémel et qui lui, carrément, était membre du parti radical et militait pour le parti radical ici en Bretagne. Et on retrouve ce réflexe dans le phénomène qu'évoquait le professeur Foulou, à savoir que il y avait 7 ou 8 ministres protestants dans le dernier gouvernement, le gouvernement de gauche. Dans le milieu de la France, le vote protestant est très très sensible, puisque le protestantisme forme une minorité relativement importante et cohérente, et c'est toujours un vote de gauche, voire même d'extrême gauche. Un certain nombre de protestants des Cévennes votent communistes, non pas parce qu'ils sont marxistes, mais parce que, eh bien, on vote pour ceux qui sont les plus hostiles à la droite catholique. Et donc, puisque c'est les communistes, on vote pour les communistes. Alors, il y a là des réflexes qui remontent à une histoire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, justement. À l'époque de Vichy, évidemment, le protestantisme aussi s'est senti très très menacé. Et ces réflexes de minorité ont joué. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans ces régions-là, on a continué à voter à gauche. Bien sûr, le phénomène Le Pen aussi, joue à ce moment-là aussi comme un épouvantail. Maintenant, ce qui est important sur le plan politique pour le protestantisme, c'est la liberté religieuse, disons il y a un instant. Et, par exemple, la chasse aux sorcières qui s'est déclenchée il y a un certain nombre d'années contre les sectes, a provoqué, au niveau du protestantisme et même des instances suprêmes de la Fédération protestante, une opposition manifestée qui s'est exprimée jusqu'au sein de l'Assemblée nationale et au sein des sphères les plus hautes du gouvernement contre le rapport Vivien, le fameux rapport Vivien. En ce qui nous concerne, vous savez, nous n'avons pas pris une part inactive à cette réaction-là. Alors, forcément, le protestantisme a toujours la hantise que le catholicisme exerce une influence occulte sur le gouvernement, sur les instances du gouvernement, sur les instances de l'État. Et c'est ce qui explique un certain nombre de comportements et un certain nombre d'attitudes, justement, en particulier des élites de la Fédération protestante. Bien sûr, tous ces mécanismes-là, tous ces déterminismes-là jouent aujourd'hui d'une façon quelque peu moins rigoureuse que il y a quelques dizaines d'années, mais néanmoins, ça reste. Pourquoi ça joue moins? Eh bien, parce que justement, il y a eu différents phénomènes. Premièrement, l'exode rural qui a fait que les grands terroirs protestants, les grandes régions protestantes se sont vidées. Deuxièmement, il y a eu l'urbanisation qui a fait que beaucoup de protestants ont perdu leur identité dans ce processus d'urbanisation. Et puis, il y a eu la perte de l'esprit de corps. Et maintenant, le protestantisme arrive à la même conclusion que nous, est en passe de perdre son identité. Et enfin, il y a un autre phénomène qui est maintenant en jeu. C'est que le vieil anticléricalisme, dans lequel le protestantisme avait vu un appui pendant la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et qui était essentiellement un anticléricalisme anticatholique, est devenu à partir des années 50 une hostilité systématique à toute forme de religion. Et c'est pourquoi maintenant la situation est totalement modifiée et beaucoup de protestants ne l'ont pas encore perçue. À savoir qu'il y a eu deux stades dans le processus de laïcisation. Un premier stade qui va de 1880 à 1809 environ, et qui était effectivement une tentative d'expurger l'État français de l'influence trop directe du catholicisme. Et puis à partir de 1950, c'est la religion en tant que telle qui est attaquée. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit juive, qu'elle soit ce qu'on veut. Si bien qu'à ce niveau-là, tout le monde se retrouve du même côté de la barrière. Et c'est ça justement le phénomène nouveau. Et c'est ce qui provoque maintenant ce regain de vitalité confessionnelle du côté du catholicisme. Le catholicisme, lui, a fait cette analyse. Et depuis en particulier les années 80, les années 30 en particulier, le catholicisme est redevenu un catholicisme de combat qui réaffirme son identité face à cette agression, à ce qu'il perçoit comme une nouvelle forme d'agression de la société ambulante. Alors, cela s'est traduit par les grandes manifestations en faveur de l'économie, qui ont marqué justement l'ère du gouvernement socialiste, où le catholicisme en France a repris conscience qu'il reste une force avec laquelle il faut compter. Deuxième influence, c'est celle du pape Jean-Paul II, qui est aussi un pape militant, qui tente de redonner au catholicisme ce militantisme et cet esprit combatif qu'il avait un peu perdu, justement, depuis le Vatican II, et qui se traduit par une sorte de contre-réforme qui ne vise plus tellement directement, d'ailleurs, le protestantisme. C'est pas le protestantisme qui est visé dans ce mouvement de contre-réforme catholique aujourd'hui. Contre-réforme, il faut le mettre entre guillemets, bien sûr, vous comprenez. Mais c'est justement le processus de sécularisation et le processus de laïcisation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui en grande partie la conduite catholique, y compris aussi au niveau de l'œcuménisme. Il y a un retour, sous l'impulsion directe de Jean-Paul II, à un catholicisme baroque. Vous savez ce que c'était l'ère baroque? C'était justement l'ère de la contre-réforme. Et l'Église catholique avait, façonné, après la contre-réforme, tout un esprit, y compris dans l'art. Et vous savez, l'art baroque est tout à fait caractéristique parce que c'est un art très spectaculaire. Un art qui frappe les sens. Parce que c'est un art qui veut toucher les masses, qui veut remobiliser les masses. Et c'est dans ce sens-là que le professeur Pouilloux parlait du pape Jean-Paul II comme d'un pape baroque, entre guillemets, pas dans sa, peut-être dans son folklore, etc. Mais justement, effectivement, dans justement tout ce qui entreprend, les grands voyages, le grand spectacle, eh bien, c'est le même esprit que l'esprit baroque, remobiliser les masses pour qu'elles résistent justement à la laïcisation. Et c'est pourquoi, justement, sur le plan de l'œcuménisme maintenant, Le catholicisme a une attitude double. Première attitude, il réalise que finalement le protestantisme n'est plus l'ennemi privilégié. Il y a plus urgent que de combattre le protestantisme. L'ennemi numéro un, c'est la sécularisation, encore une fois. Et dans cette lutte contre la sécularisation, le protestantisme, comme toutes les religions, sont des alliés potentiels. D'où, par conséquent, la nécessité d'un dialogue avec le protestantisme, la nécessité d'une collaboration dans un certain nombre de domaines. Mais en même temps, dans la mesure où la lutte contre la sécularisation passe par une réaffirmation de l'identité, une réaffirmation de l'identité confessionnelle, automatiquement, eh bien, même si le protestantisme n'est pas la cible première, la conséquence, c'est que, eh bien, cette réaffirmation d'identité confessionnelle se fait aussi contre le protestantisme, même si le protestantisme n'est pas visé en premier chef. Vous comprenez ce double mouvement. Ce qui fait que l'œcuménisme catholique est dans une ambiguïté totale. D'un côté, donc, un désir réaffirmé d'ouverture, et le pape Jean-Paul II ne se fait jamais faux de réaffirmer que l'œcuménisme, l'engagement œcuménique, est un engagement irréversible. Et il y a une certaine sincérité quand il dit cela. Mais en même temps, il y a des difficultés nouvelles qui naissent dans l'œcuménisme à cause de la crispation catholique, de la réaffirmation de son identité confessionnelle, qui se fait aussi contre, automatiquement, le protestantisme. Le protestantisme qui reste quelque peu suspect parce que, malgré tout, eh bien, tête de pont éventuel de l'esprit laïque, du processus de sécularisation, parce que le protestantisme lui-même est entamé par ce processus de sécularisation beaucoup plus que ne l'est l'Église catholique, et par conséquent, il est vécu comme un danger potentiel de ce niveau-là. Et automatiquement, on arrive dans la situation actuelle, celle où l'œcuménisme connaît une accentuation non plus des convergences, mais une accentuation des différences, sans pour autant que l'on cherche, d'un côté comme de l'autre, à rompre. Et c'était la conclusion. Voilà où aujourd'hui on est l'œcuménisme, à cause de toute cette évolution historique. Voyez-vous, c'était un exposé extrêmement intéressant et une analyse très très pertinente. Et absolument, je disais personnellement, passionnante de cette réalité œcuménique à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués. Voilà, est-ce que vous avez une ou deux questions à poser rapidement sur ce... Le parti radical était anticlérical. Comment ? Parce qu'ils cherchaient. Il y avait convergence d'intérêts. Le parti radical, parce que c'était des laïcs, parce que c'était des gens qui étaient hostiles à l'Église catholique, cherchaient à vider celle-ci de toutes les instances de l'État.
C'était
une réaction anti-catholique. Et de leur côté, les protestants, c'est poursuivre le même but. Donc, automatiquement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si, absolument. Indirectement, ils favorisaient. Pour la même raison, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, dans la mesure où ils pouvaient mettre un protestant, c'était pas un catholique. Ils savaient que ce serait quelqu'un qui serait aussi un catholique, donc ils le favorisaient. Enfin, c'est pas très spirituel tout ça, n'importe comment. Il faut quand même bien voir les choses. Ça volait pas très haut spirituellement. Seulement, c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre parfois des réflexes, même inconscients, en nous-mêmes. Voyez-vous ? Des réflexes sataniques qui sont hérités justement, même que quand on est, comme la plupart d'entre vous, anciens catholiques, il y a des choses qui jouent, n'est-ce pas ? Dans la mesure où on épouse aussi une culture, en fin de compte. Alors c'est très intéressant parce qu'il faut comprendre un petit peu quels sont les mécanismes qui nous déterminent, justement pour les juger ensuite spirituellement, pour dire ça c'est pas spirituel, c'est humain, c'est culturel, c'est ceci, c'est cela. Donc ne réagissons pas comme ça, et voir peut-être si, donc, dans certains autres aspects, eh bien, telle et telle démarche est fondée. Ces gens-là, ils ont réagi comme cela en leur temps, ils n'avaient pas tort, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, le catholicisme était un problème, et aujourd'hui, c'est encore une attitude qui peut être valable. Il y a les deux possibilités, vous comprenez. Il faut avoir cette liberté de juger ses comportements à la lumière de la parole et de l'Esprit de Dieu, il faut dire, bon, ben, ça, c'est pas valable, parce que ça, c'était vraiment, par exemple, cette alliance avec le Parti radical, ou bien le fait de voter à gauche, à l'extrême gauche, parce que, ben, en faisant, on vote anti-catholique, bon, ben, c'est stupide, c'est évident. Maintenant, une certaine. La lutte contre une certaine influence du catholicisme dans les rouages de l'État me semble quelque chose qui mérite malgré tout d'être pris en compte. Parce que c'est certain que il y a tout un esprit catholique qui a formé, justement, qui continue à former les dirigeants de la France, et qui n'est pas toujours pour le mieux. Il suffit de revoir, par exemple, la vision centraliste française. Avec tous les problèmes qu'il a créés, c'est ce bouquin de Griffith sur le mal français. Le mal français, bon, si les protestants ne luttent pas contre le mal français, qui le fera? Ça, sur un plan terrestre humain, on n'est pas sur un plan spirituel.
Oui, donc,
si
c'est pas ça, qui est là, c'est là vraiment...
Mal. Du côté protestant comme du côté catholique, on a très mal réagi. Très mal réagi à cet exposé.
Tout ça catholique, c'est ça?
Oui,
c'est
catholique.
L'histoire
contemporaine. Quels reproches ils lui ont fait? Ils l'ont de ne pas être objectif, en fin de compte. D'être partisan. Oui, les catholiques l'ont accusé de favoriser les protestants, et les protestants favorisaient les catholiques. Donc, on exposait. C'est un peu paradoxal.
Ce qui prouve que j'étais vraiment obligé.
Oui, justement. Et le pauvre homme, j'ai complètement désemparé. Il faisait peine à voir, il était tout penaud, tout pantois, il ne s'attendait pas à cette volée pour Abel, parce que lui, au contraire, il avait essayé, comme d'ailleurs il l'avait dit là, d'être absolument objectif. Et là, il était tout à fait surpris et décontenancé par cette attaque dont il était l'objet. Et il nous a tellement fait pitié qu'on est allé le consoler et lui dire qu'on avait au contraire, nous, à beaucoup apprécié l'objectivité de son exposé. Alors il m'a dit, ah ben vous mettez du bon au cœur, il vous a dit. Je suis tellement content, il a mangé avec nous. Pourquoi? Parce que on avait affaire ici à des gens qui étaient des gens religieux, qui réagissaient en tant que membres de partis religieux et pas spirituellement. Et là, en tant une attitude spirituelle aurait voulu, c'est ce que nous l'attitude en ce qui nous concerne ainsi l'adopter, et bien de dire, ben voilà, ça, au contraire, ça nous explique un certain nombre de choses, même de réflexes inconscients en nous, bon ben ça, et je crois qu'on prenne note et puis qu'on essaye de.